Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
13h sur SBS French, mesdames et messieurs, bonjour, merci d'écouter le programme en français sur Radio SBS. Je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble et on commence notre émission avec le personnage de la semaine, celui qui a marqué l'actualité. Pour la chronique du personnage de la semaine, nous allons parler avec Valentine Saboureau, voile, bravoure et vitesse, puisque nous nous penchons sur le parcours et la victoire éclatante de Charlie Dalin, nouveau vainqueur du Vendée Globe. Bonjour Valentine.
Bonjour, bonjour à tous. Personne n'aura échappé à l'arrivée magique du Normand Charlie Dalin mardi dernier, 14 janvier, au Sable d'Olonne, après une course fantastique de 64 jours, 19h, 22 minutes et 49 secondes. Dixième vainqueur du Vendée Globe, il est aussi le plus rapide de tous les temps puisqu'il a pulvérisé le record détenu par Armel Lecléac. On l'écoute ici à son arrivée.
When I crossed the finish line, I felt things I never felt before. Like that's definitely the best finish line crossing of my career by far, and that was just amazing. So much emotion and like really happy to be back in Les Sables after 66 days of ultra fast sailing. I'm just really happy.
Mais il faut dire, Valentine, que ce n'est pas la première fois que Charlie Dalin passe la ligne d'arrivée en premier.
En effet, il y a 4 ans, en 2021, il était arrivé premier au Sable d'Olonne, mais il avait dû céder la première place du podium à Yannick Bestaven, détenteur d'un bonus de 10h et 15 minutes pour s'être porté au secours de l'un de ses concurrents, Kevin Escoffier. Eh bien, depuis lors, le marin n'avait eu de cesse de souhaiter revenir pour l'emporter. Eh bien, c'est chose faite aujourd'hui. À 40 ans, Charlie Dalin a réalisé un exploit salué aussi bien par les autres skippers que par Emmanuel Macron qui a applaudi, je cite, « un hymne à la grandeur et à l'audace humaine ». Et alors, on peut aussi, évidemment, féliciter toute l'équipe de Charlie Dalin et surtout son monocoque dernière génération, l'Imoca Massif, conçu avec le cabinet de Guillaume Verdier. Il a nécessité quand même 60 000 heures de travail sur 20 mois avec 50 personnes impliquées. Charlie Dalin le présentait comme suit à Sail World en juin 2023.
So we try to make the fastest hull as possible, fastest falls, fastest everything. But we did quite a lot of work on the ergonomic side of things. The big difference compared to APVR is that we swapped the cockpit and the living area. On APVR, the living area was forward of the cockpit. We've done the reverse on this boat. And also, we made these spaces really, really small.
Alors, Charlie Dalin, c'était le favori de cette course, le favori de ce Vendée Globe. Et on rappelle que c'est un peu le Graal des marins, le Vendée Globe.
Oui, pour la raison que je viens d'évoquer, il n'avait peut-être pas une revanche à prendre, mais l'envie très forte et très claire de surmonter une grosse déception. Et bien, finalement, il a été en tête de la course quasiment tout le temps, quoiqu'il ait été talonné par Johan Richom, qui lui a même grillé la politesse en passant le Cap Horn 9 minutes 30 avant. Bref, il y avait donc un favori qui a gagné, mais on a quand même assisté à un duel au sommet, si je puis dire. Une belle course donc, même si elle a été l'objet de plusieurs abandons, dont le premier le 15 novembre. C'était Maxime Sorel, blessé à la cheville et victime de gros problèmes techniques, qui a dû arrêter 5 jours seulement après la course. Alors je rappelle, mais on en a déjà parlé avec le portrait de la Benjamine Violette d'Orange, que nous saluons au passage, que le Vendée Globe est un tour du monde sans escale et sans assistance qui fait passer par les caps de Bonne-Espérance, Lewin et Horn pour une distance approximative de 45 000 km. Elle a lieu tous les 4 ans et celle-ci donc est la 10e édition. C'est une course évidemment mythique, mais aussi très dangereuse.
C'est quand même un sacré palmarès d'arriver deuxième et premier en deux participations au Vendée Globe. Mais en même temps, Charlie Dallin, ce n'est pas un débutant, Valentine.
Loin de là, vous avez raison, c'est un marin très expérimenté, même si sa famille n'était pas du tout dans la voile, mais plutôt dans la musique. Né le 10 mai 1984 au Havre, il commence l'optimiste en vacances à l'âge de 6 ans. Il se lance dans la compétition, entre guillemets tardivement, à seulement 15. À 23 ans, il gagne la Transgascogne en double avec Laurence Château. Il remporte de nouveau cette course l'année suivante, en solo cette fois. Ensuite, eh bien, il enchaîne les très bons résultats. Il monte 5 fois sur le podium de la solitaire du Figaro et il est 2 fois champion de France de course au large en solitaire. En 2021 et 2022, il est champion du monde de la classe IMOCA. Avec cette première place au Vendée Globe, il a atteint un nouveau sommet. Alors, qu'est-ce qu'il attend désormais? Eh bien, on parle de la Transat Café L'Or 2025 ou de la Route du Rhum 2026. Quant au Vendée Globe, eh bien, nul ne sait s'il recommencera, mais on lui souhaite de suivre la voie ouverte par Jean Le Cam, doyen de cette édition à 65 ans. Il a participé 6 fois à cette course d'anthologie. Allez Charlie, plus que 4.
Merci beaucoup Valentine. Perdre la tête, c'était Isé sur les ondes de Radio SBS. Allez, on marque une très courte pause, on se retrouve tout de suite avec un épisode de notre podcast L'Histoire cachée de l'Australie. Et dans ce deuxième épisode, Grégory Pless et l'historien Romain Fati s'intéressent à la période au cours de laquelle l'Australie a adopté la monnaie papier, mais aussi à celle durant laquelle elle a renoncé à la livre pour passer au dollar australien.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série consacrée à l'histoire de la monnaie en Australie, histoire qui s'inscrit dans le cadre de notre série de podcasts sur l'histoire de l'Australie. On arrive donc au début de l'Australie autonome. L'Australie est devenue une fédération et c'est à cette époque qu'elle commence à adopter la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie papier. Alors on avance encore un petit peu dans le temps, on arrive en 1900, c'est à cette date que l'Australie devient une fédération, et en 1910, l'Australie enfin imprime sa propre monnaie, c'est la livre australienne.
Oui, c'est ça, l'Australian Pound, hein, la livre australienne, qui est adoptée par le gouvernement Fisher en 1910, et donc one Australian Pound, une livre australienne correspond à 20 shillings, et un shilling correspond à 12 pence. Et donc, en fait, c'est exactement la même conversion que le pound sterling, que la livre britannique, la livre sterling. Et on commence à frapper des... Enfin, pas à frapper, à imprimer des billets. Et là, c'est important, vous vous souvenez que je vous ai dit qu'en fait, la valeur or d'une pièce, ou argent ou cuivre, correspondait à un certain poids, et que cette valeur était fixe. Or, quand vous commercez, quand vous avez de plus en plus d'habitants, de citoyens, de personnes qui cherchent à échanger, avoir des billets est très important parce que déjà, c'est beaucoup moins lourd. Hein, vous imaginez, trimballer 10 pièces d'or, c'est lourd. C'est pas, on pense à des petites pièces comme ça, mais il y a des métaux qui sont très très denses, dont l'or par exemple, et l'argent. Là, on passe à de la monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire, c'est un principe en fait où la valeur nominale de votre billet est supérieure à sa valeur intrinsèque. Alors, j'explique. La valeur de l'or est la valeur de l'or. Elle est fixe et en demande, ça correspond à un poids. Un billet où il y a écrit 500 francs dessus, en fait, le prix du papier ne vaut pas 500 francs. Donc en fait, on passe à l'impression de billets. Les billets sont reconnus et officialisés, si bien que le gouvernement Fisher dit aux autres États... on ne reconnaît plus vos billets, ils n'existent plus. À partir de ce moment-là, c'est toute la fédération, tous les États d'Australie qui vont devoir utiliser les billets frappé par la banque centrale australienne de l'époque. Et donc, ça permet, encore une fois, d'accroître les échanges monétaires, d'accroître la masse monétaire dans l'économie et donc d'accroître également l'économie.
Très bien. Alors, on le disait, on parlait alors d'Australian Pound, la livre australienne qui suivait un petit peu la logique, à vrai dire, un peu tordue de la livre sterling britannique. Donc, la livre se divise en shillings, en pennies, en farthings. C'est un peu compliqué, pour être honnête. Et puis, dans les années 60, sans doute parce que entre-temps, l'Australie s'est quand même pas mal rapprochée des États-Unis. Elle adopte ce qu'on appelle la décimalisation, donc ça veut dire que 1 dollar est divisé en 100 centimes, 100 cents, et la livre devient donc le dollar australien. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi l'Australie passe de la livre au dollar? Et puis ensuite, donc on parle aujourd'hui de dollar australien, mais il y a d'autres noms qui avaient été envisagés pour cette nouvelle monnaie.
Oui, alors c'est cette adoption du système décimal en 1966 répond à plusieurs impératifs. Le premier, c'est la simplification. Alors vous avez dit oui, la livre, ce système de livre britannique est un peu tordu, un peu compliqué. Quand on est avec, c'est pas si compliqué. Hein. C'est comme les unités de mesure en pieds, en mains, en pouces. Ça nous paraît compliqué, nous Français, parce on n'a pas vécu avec. Mais quand vous oui, naissez dans une société qui, comment dirais-je, les utilise, ça vous paraît assez intuitif. Cependant, même si c'est intuitif, ça a un coût quand même, ça inclut quand même un temps de calcul plus important que le système décimal. Et donc, il avait été estimé à l'époque, en Australie, dans les années, la fin des années 50, le début des années 60, quand on commence à penser à ça, qu'en réalité, les échanges commerciaux d'une Australie qui s'ouvre se font de plus en plus avec des pays qui utilisent des systèmes décimaux. Et donc, ça a un temps de calcul, ce qui coûte à l'économie. Alors, il y a l'argument de simplification, puisque il est effectivement beaucoup plus simple d'être dans un système décimal où vous utilisez les facteurs de 10 plutôt que de faire des conversions d'apothicaire dans le système britannique et australien de l'époque. Il y a l'argument économique, et puis effectivement, il y a aussi l'argument, je dirais, culturel un peu d'émancipation et d'avoir une monnaie qui soit distinctive plutôt qu'une livre australienne qui soit indexée sur la livre britannique avec le système de Bretton Woods. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, en 1966, l'Australie adopte officiellement le dollar australien. Et vis-à-vis du nom, pendant assez longtemps en réalité, le Premier ministre de l'époque, extrêmement monarchiste, très très vieille garde, Bob Menzies voulait que la nouvelle monnaie s'appelle la Royale, The Royal. Et alors, tout est fait, il écarte d'autres suggestions de noms, il fait publier ça. Et en fait, quand le gouvernement l'annonce, c'est le tollé. La risée générale, on est en 63, les Australiens, bien qu'effectivement le chef d'État soit alors la reine d'Angleterre, se voient un peu comme un pays déjà autonome et différent. Et donc, le gouvernement est obligé de faire machine arrière au grand désespoir du premier ministre de l'époque, Menzies, et en fait annonce que, tout simplement, la nouvelle monnaie sera appelée le dollar parce que c'est ce qu'il y a de moins, comment dirais-je, qui est le moins sujet à controverse à l'époque. Avait été proposé enfin, plein de suggestions, comme l'Austral, Oz, le Roo, qui est la fin du mot kangourou, le koala, enfin tout un tas de noms qui étaient liés à l'Australie, mais qui auraient eu du mal à prendre. C'est pas très sérieux d'avoir une monnaie qui s'appelle le koala, hein, surtout quand ça se repose sur la confiance. Donc quand vous appelez votre monnaie le dollar australien, ça a l'air déjà un peu plus fort sur les marchés internationaux.
Ouais, bon, moi j'aurais bien aimé que ce que j'ai dans ma poche s'appelle des rouses ou des koalas, et puis vous expliquer que dans l'opinion publique, les gens trouvaient ça un peu bizarre de rester en quelque sorte sous la férule de l'Angleterre avec cette suggestion d'appeler la monnaie le royal, mais enfin on peut considérer que le dollar australien, ça reste une forme d'inféodation à un autre pays. Bon,
Alors,
après ça c'est juste mon opinion, mais bon.
c'est pas faux, mais si vous voulez, cette inféodation, elle est beaucoup moins réelle vis-à-vis des États-Unis qu'elle ne l'est vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Là, il s'agit vraiment, enfin voilà, ce sont originellement des Britanniques. Vous avez le chef d'État qui est la reine ou le roi d'Angleterre. Les institutions sont britanniques, donc si vous voulez, c'est beaucoup plus difficile à nier et ça pince le nerf un peu plus de façon un peu plus aiguë que le dollar américain qui paraît fort lointain. Mais il faut voir aussi à l'époque que les valeurs monétaires internationales sont fixées par le système de Bretton Woods et qu'en fait la valeur monétaire d'un billet est généralement indexée au dollar américain qui est lui-même indexé sur l'or. Donc, par rapport au choix du nom, il y avait aussi un choix économique et de force monétaire, si vous voulez, qui a été fait. Mais je suis d'accord qu'on aurait peut-être pu trouver un nom un peu plus original et un peu plus australien.
Ouais, bah l'Austral aussi, moi j'aime bien, à vrai dire, c'est sympa quoi.
C'était plus sympa, ouais.
Ouais. Alors donc à partir des années 60, l'Australie passe au dollar. Avant c'était la livre australienne, mais enfin en tout cas ça fait maintenant un peu plus de 50 ans. Vous nous l'avez dit tout à l'heure que l'Australie est passée à la monnaie fiduciaire, donc la monnaie papier, le fait qu'on utilise des billets dont la valeur intrinsèque est très inférieure à celle qui est imprimée dessus. Et évidemment, ça pose un problème qui se pose à toutes les sociétés qui utilisent ce genre de monnaie, c'est les risques de falsification. Et il commence à devenir très important au tournant des années 60 en Australie. Et donc, à cette époque, le gouvernement mandate la Banque centrale australienne et l'appelle à réfléchir à eh bien, créer des billets de banque qui soient ben, plus difficiles à falsifier, tout simplement.
Oui, alors la falsification monétaire a une très longue histoire, hein. Vous pouvez, par exemple, fondre des monnaies avec de l'or un peu trafiqué, qui soit moins pur. C'est pour ça que frapper monnaie était réservé généralement au pouvoir royal et que les personnes qui falsifiaient la monnaie étaient punies parfois de mort, mais enfin très très lourdement. D'ailleurs, détail intéressant, quand les pièces sont striées sur les côtés, ça correspond justement à une nécessité d'éviter la falsification ou pour récupérer quelques grammes d'or, les gens rognaient leurs pièces, récupéraient de l'or, refondaient, refaisaient des pièces. Donc si vous striez votre monnaie sur les côtés et que vous voyez que la monnaie est lisse, c'est que quelqu'un a tenté de voler quelques grammes ici ou là. Donc déjà, avant même les billets, il y avait de la fraude, il y a toujours eu de la fraude, et des systèmes pour essayer de falsifier la monnaie. Avec les billets, effectivement, là, ça peut se faire à très grande échelle. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que vous pouvez créer de la monnaie de façon abusive, et non seulement c'est du vol, mais ça peut avoir un impact assez considérable sur l'économie en termes de dévaluation. Si vous inondez un marché de billets et de monnaie, sa valeur diminue. Pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, on se souvient de l'inflation en Allemagne où on fait tourner la planche à billets et puis les gens vont acheter du pain avec une brouette de billets parce que les billets ne valent plus rien. Donc, effectivement, le problème de la falsification est un problème récurrent qui existe encore. Hein, et pour essayer de réduire le potentiel de fraude, l'Australie a mis en place un billet en plastique. Du polymère, en fait, qui est un assortiment de pétrole, de plastique, etc. Et ce plastique, alors, il a plusieurs avantages pour les personnes de la vie de tous les jours, c'est-à-dire que vous pouvez le passer en machine, votre billet en Australie, vous le récupérez tel quel, même à 60, il n'y a aucun souci. Alors, je ne vous conseille pas de faire l'expérience, mais enfin, tout ça pour dire que c'est un billet qui est résistant, qui ne se déchire pas, qui fait un son assez particulier. Et c'est vrai que quand on est français et qu'on arrive en Australie et qu'on a pour la première fois ces billets en main, on se dit, mais oh là là, c'est de la monnaie du Monopoly, c'est un peu bizarre comme. Mais ça répondait à des objectifs de sécurisation de la monnaie pour éviter qu'elle ne soit falsifiée à grande échelle. Pourquoi? Parce que vous pouvez le faire non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur, ce qui dévalue la crédibilité de votre monnaie. Et dans ces billets en plastique, le premier étant produit lors du bicentenaire de la colonisation d'Australie en 1988, c'est le billet de 10 dollars, vous pouvez inclure des safety features, des éléments de sécurisation, si vous voulez, des chiffrages, des codages, des streamants, tout un tas de choses qui permettent de rendre la falsification beaucoup plus difficile. Et de ce point de vue-là, ça a été un succès assez important puisque progressivement, tous les billets australiens sont devenus en polymère et que cette innovation australienne a traversé les frontières.
Et voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode consacré à l'histoire de la monnaie en Australie. Vous retrouverez d'ici quelques jours, toujours sur notre site internet ou bien en vous abonnant à notre chaîne SBS French sur votre plateforme audio préférée, le troisième et dernier épisode consacré donc à cette histoire de la monnaie en Australie.
Sur la plage de Trégastel, à Bruxelles, sur la Grand Place, sur le quai à Bonne Nouvelle, à l'hôtel du temps qui passe, manquer à quelqu'un quelque part. Sur la plage de Trégastel, à Bruxelles, sur la Grand Place, sur le quai à Bonne Nouvelle, à l'hôtel du temps qui passe, manquer à quelqu'un quelque part.
Manquer à quelqu'un quelque part, une chanson de Clarica. Notre journaliste Audrey Bourget est partie à la rencontre d'Élise Pioche, fondatrice de Maison Balzac, une marque australienne avec de profondes racines françaises. Voilà la deuxième partie de cette interview que vous pouvez retrouver en intégralité sur le site de SBS French.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Il semble avoir beaucoup d'histoires derrière chaque pièce que vous créez, donc ça va peut-être être difficile de répondre à ça, mais est-ce que vous avez une ou des pièces préférées que vous avez créées au cours des dernières années?
Ah oui, en fait, c'est pas dur du tout. Voilà, moi, je suis très prolifique et je crée beaucoup, et encore, ce que l'on voit publiquement de Maison Balzac, c'est peut-être un tiers de ce qu'on arrive à développer, donc il y en a au moins deux tiers qui n'ont jamais vu la lumière du jour. Et je dois vous avouer que j'ai un favori, et ça l'est depuis des années, ben depuis 2020 ou 2019. Et en fait, c'est un escargot en marbre, qui est un escargot, mais extra large, hein, il est énorme. Et en fait, il est fait à la main par un couple qui habite dans le Gers. Et ils ont créé une technique par laquelle, en fait, ils recyclent toute la poussière de marbre des carrières de Carrare en Italie. Ils la ramènent en France, ils la mélangent à une espèce de lait colle qui fait que ça devient comme un liquide, qu'ils versent dans des moules en silicone dont la forme a été dessinée par moi-même. Ensuite, ils l'adoucissent à la main, ils le polissent à la main. Et en fait, sur sa tête, il y a deux trous et dans chaque trou, on met un bâton d'encens. Et en fait, c'est un escargot géant qui, en fait, est un porte-encens. Et pour moi, lui, il symbolise ma vie en entier. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je passais des heures entières dans le jardin à observer surtout les fourmis et les escargots. C'était vraiment mes meilleurs amis. Et j'adore en fait le fait que les escargots soient très timides. Et en fait, quand ils ont peur ou quand on leur touche les antennes, ils aiment pas trop, donc ils les rétractent, ils les rentrent dans leur tête. Mais en fait, il faut juste s'asseoir à côté d'eux, être patient, et au bout d'un moment, ils vont les ressortir pour nous regarder. Et je trouve que cette espèce de connivence ou de complicité avec un galopode comme ça, un petit escargot, je trouve ça d'une poésie immense. Et d'avoir réussi à intégrer un escargot dans ma collection, vraiment, voilà, c'est l'essentiel de ce que je suis en fait. C'est poétique, c'est un peu Alice au pays des merveilles, mais à la fois c'est utile. C'est-à-dire que cet escargot, ben voilà, il va aider à ce que le salon il sente bon, mais de façon très belle. Et surtout, même sans ses antennes, il est beau. Donc en fait, c'est un espèce d'objet d'art très nostalgique pour moi. C'est un escargot et je sais que tout le monde n'aime pas les escargots et j'adore être, comment on peut dire, j'aime avoir des concepts tellement forts que tout le monde ne va pas aimer en fait. J'essaye d'être juste très sincère et d'avoir mon univers à moi avec des mouches, des crevettes, des homards. Et pour certaines personnes, un escargot, c'est pas très propre ou c'est pas très beau. Et moi, pour moi, je le trouve magnifique. Donc voilà la raison pour laquelle l'escargot, c'est mon héros. Et on n'en fabrique qu'à peu près 50 par an. On importe de France et je trouve que chaque personne qui a la chance d'avoir cet escargot géant dans son salon, ben ils ont la même poésie ou le même goût pour l'imaginaire que moi et ça me fait très plaisir.
Et puis vous disiez plutôt que vous n'auriez pas vu votre marque évoluer autant ailleurs qu'en Australie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial en Australie?
Alors en fait, je pense que déjà, j'aurais pas osé démarrer en France parce qu'il me semble que le marché à la fois français et européen et de l'hémisphère du Nord en général est assez saturé. Et l'impression que j'avais, moi, en 2012, c'est que l'Australie était un pays qui était avide de nouveautés, qui avait envie de prendre des risques en découvrant des choses. Donc, j'avais senti qu'il y avait une place pour moi et pour mon monde imaginaire. Donc, être ici, définitivement, m'a poussé à commencer. Et aussi, le développement de la marque, comme je vous disais, quand un acheteur qui vient pour acheter des bougies, on lui présente une carafe en verre, ils avaient cette ouverture d'esprit de se dire « Ah oui, ben, je m'y attendais pas, mais pourquoi pas, en fait ?» Et j'adore cette idée de « to give it a go », d'essayer, en fait, de prendre un petit risque. Et donc, moi, c'est forte de tous leurs commentaires et de tout leur encouragement, en fait, je n'ai eu aucune limite, en fait. Et je suis certaine qu'en France, j'aurais eu beaucoup de retours, je pense, beaucoup plus... les gens m'auraient dit, mais tu es sûre, réfléchis, il vaut mieux la sécurité que la folie, ou que, vous voyez. Alors qu'ici, non, quoi. Je sens que l'Australie est avide de cette espèce de quirk, de folie. Et c'est peut-être juste une idée que je me fais, hein, mais en tout cas, je sais que c'est ce pays intérieurement qui a tout rendu possible.
Non, je pense que c'est quelque chose qu'on entend quand même souvent des gens qui ont démarré leur entreprise ici, où ils ont l'impression que tout est possible en Australie.
Oui, c'est vrai. J'en suis la preuve.
Et dites-moi, Elise, donc à quoi on peut s'attendre cette année avec Maison Balzac? Qu'est-ce que vous pouvez nous révéler?
Oui, alors en fait, chaque année, ça c'est mon passé de maîtrise de lettres et ma passion pour la littérature. Chaque année, je place l'année Maison Balzac sous un thème en particulier. Et je me souviens qu'on faisait cela chez Hermès aussi. Et donc, cette année, le thème que j'ai choisi, c'est Cadaqués, qui était le village dans lequel habitait Salvador Dali au nord de l'Espagne. Et en fait, ce village, il est à peu près à 1h30 de route de ma maison à Béziers. Donc, souvent, avec mes parents, on y passait un week-end par mois. On allait visiter la maison de Dali. C'est vraiment son monde surréaliste a vraiment baigné mon enfance, mon adolescence, et aussi en maîtrise de lettres. Donc, j'ai fait un mémoire sur Jean Cocteau et tout l'esprit surréaliste des ballets russes, de Picasso, André Breton et surtout Cocteau et Dali. Et donc moi, toute cette année, je me suis amusée à tricoter les thèmes surréalistes sur chaque collection. Donc vous pouvez vous attendre à 4 petites capsules d'objets complètement délirants en février, avril, août et octobre. On va lancer des petites collections vraiment amusantes avec des couleurs bleu indigo comme le bleu de la mer, des couleurs ambrées comme l'écorce des pins centenaires qu'il y a au bord de la mer en Méditerranée. Il y a beaucoup de soleil, des petits piments que l'on met dans les paellas, il y a des homards, il y a des filets de pêche, des barreaux de chaises anciennes australiennes, mais en fait c'est des trompe-l'œil parce que ce sont des bougies à allumer. Donc voilà, beaucoup de clins d'œil, beaucoup d'humour. Il y a à peu près 80 nouveaux produits qui arrivent là, donc à partir de début février. Donc c'est vraiment une collection et une année dont je suis hyper fière parce qu'en fait, presque chaque objet vous fait sourire. Et je trouve que quand on arrive à créer des émotions comme ça chez les gens, pour moi, c'est gagné en fait. Surtout avec le climat actuel, beaucoup de choses ne vont pas dans le monde. Il y a toujours des choses qui ne vont pas. Et moi, j'ai l'impression que ma mission avec ma marque, mon désir en tout cas, c'est de donner une petite bulle de sérénité, d'amusement, de sourire et de délire un peu surréaliste. Ça me fait plaisir de savoir que j'arrive à fournir ça au monde en fait, pour contrebalancer tout le reste.
Je pense que vous réussissez très bien, puis on va garder un œil là-dessus. On est curieux, donc ça s'en vient bientôt. Merci beaucoup, Elise Pioche-Balzac, d'avoir pris le temps de nous parler de Maison Balzac, de vos inspirations, de l'histoire derrière la marque.
Oui, écoutez, c'était vraiment un plaisir de revivre tout ça avec vous et je suis vraiment ravie d'avoir été invitée. Merci à vous.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
La vie, c'est comme une image, tu t'imagines dans une cage ou ailleurs. Tu dis c'est pas mon destin, ou bien tu dis c'est dommage. cours et je me sens toujours tout seul.
Albin de la Simone sur SBS French avec son titre « Oh, je cours tout seul ». Pour terminer cette édition, on s'intéresse aujourd'hui à la signification culturelle du tissage pour les Premières Nations. Le tissage est un exemple complexe et sophistiqué parmi toutes les techniques des Premières Nations et leur culture. Alors, outre la création d'objets de grande beauté, l'activité a elle-même une profonde signification culturelle, puisque c'est en effet une façon de partager des connaissances, de connecter les gens entre eux, ainsi qu'au territoire et d'inviter à la pleine conscience. Retrouvez ce sujet, il est signé Mélissa Compagnoni et Léo Roussel.
Le tissage est l'un des exemples les plus sophistiqués et complexes qui illustrent toute la technologie et toute la culture des Premières Nations. Les tisserands créent certes des pièces d'une grande beauté, mais le processus en lui-même est associé à une profonde signification culturelle. Dans cet épisode d'Australia Explained, nous allons voir comment le tissage est utilisé à de multiples fins pour partager des connaissances, comme lien entre les gens et le territoire, ou encore pour inviter à la pleine conscience.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Les objets tissés sont aussi divers que les tisserands des Premières Nations qui les créent. Chaque œuvre est un objet significatif qui forme un lien visible entre le tisserand, son pays et ses ancêtres. Le processus de tissage commence par la collecte et la préparation des ressources naturelles locales, comme des roseaux, des écorces et des plantes. Celles-ci sont ensuite tissées de manière à créer des objets complexes tels des paniers, des bols, des cordes ou des filets. L'artiste et éducatrice Cherry Johnson est une femme du peuple Gomeroi, au nord de l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Elle tisse depuis l'âge de 16 ans.
Weaving is just one word in English. In first mother tongue language, there's lots of different words for it because you're actually talking rather about the process and the product. But the actual really significant bit about what we call weaving in the Western is the cultural knowledge that's held in the objects, knowing what plants to pick, what time of year, and also what's available for harvest to eat in a really sustainable way.
Le tissage est aussi une activité sociale. Cherry Johnson ajoute en effet que le tissage permet à différentes générations de s'asseoir ensemble pour discuter, partager des histoires et partager la culture derrière le tissage, afin que les générations futures perpétuent ces traditions autour de la pratique.
The importance about weaving is not necessarily just learning the stitches and the process. The importance is actually understanding what you wove with, why those items were significant, what the object that you're making was used for, how to use it correctly. So there's so much involved in it.
Le tissage n'a pas la même signification pour tout le monde. Luke Russell est un homme du peuple Warimi dans la région de Newcastle en Nouvelle-Galles du Sud. Pour lui, le tissage consiste à apprendre et à transmettre le savoir-faire de ses aînés en matière de fabrication d'outils, en construisant des canoës traditionnels en écorce ou encore des lances pour la pêche.
For me, weaving and predominantly rope weaving plays a big part, especially with all of men's tools. Our weaving plays a part in securing, say, the ends of the canoe. It also plays a part in securing the different materials that we use to form together, like our fishing spears. If we're binding rock to use as, say, a spear tip, a knife edge, that's all secured by weaving rope.
Et contrairement à certains stéréotypes, les hommes prennent aussi part au tissage. Selon Luke Russell, les garçons apprennent traditionnellement le tissage en même temps que les filles, dès la petite enfance et jusqu'à l'adolescence, sous la direction d'une hiérarchie matriarcale.
We had distinct roles, but that's not to say that everything was exclusively men's or exclusively women's. So for a young man especially who was getting taught to progress from what we'd say a boy to a man is when he would have to utilize all those skills and all the skills that he would have learned up until that point were taught by women.
L'artiste Nifai Denham est un homme du peuple Giramai, propriétaire traditionnel de la région de Cardwell, au nord du Queensland. Il utilise le tissage comme un art, mais aussi à la maison pour le simple plaisir de s'asseoir tranquillement et de se concentrer sur ses différentes pièces.
I've learned from my uncle. He's taken the time to show me how to make the traditional lawyercane baskets that we use up here in North Queensland. And it was from there that I've learned how to go out collecting, how to strip it into finer pieces and also setting them out in the four different sizes in order to start constructing the basket weaving.
Le tissage est un moyen de méditer, une façon d'organiser visuellement ses pensées. Pour Cherry Johnson, la véritable pleine conscience, c'est réaliser quelque chose intentionnellement et y déverser ses pensées.
That's how our community would process things. We would process them together as a collaborative, in love, and in a really respectful way, as a family. And that's what weaving does. It brings people together to sit to yarn. Sometimes in our weaving circles, people just come to drink tea, to be around other sisters.
Les ressources végétales comme les herbes et les écorces diffèrent d'un pays à l'autre, ce qui explique que le tissage peut être très différent d'un point de vue stylistique. Mais les tisserands eux-mêmes apportent leur propre style et leur propre signature à leurs objets. Par exemple, ils peuvent utiliser des pigments différents.
Here in Australia, we collect pigment from country, as in flowers, bark, sap, roots, all sorts of things. So different areas, you would collect different pigments. An artist purposefully using the pigment to colour the woven fibre is really significant for that person and for that area. So typically, somebody with a trained eye can pick the region and sometimes even the artist based on the pigment, the style and the stitch and the materials.
La confection d'un objet tissé peut donner un aperçu des caractéristiques et des techniques du tisserand. Parfois, il est même possible d'identifier l'artiste en regardant la base du tissage. C'est ce qu'explique Nifai Denham.
Many of our artists, including myself, we start off differently. That's how you can tell from the space of it and how we started, whether it's a left or a right hand weaving. So you can really tell who's made what. And you can really see whether they've taken the time to strip the cane more finer or they've just gone into rushing the process of making the basket.
Cassie Latham est une artiste pluridisciplinaire et une maître tisserande du peuple Tongarung de la nation Kulin dans l'état du Victoria. Elle anime des ateliers dirigés par les Premières Nations où les non-autochtones sont encouragés à s'engager et à écouter avec attention.
Having non-Indigenous people partake gives a greater understanding of where us as First Nations weavers come from, everyday uses from our ancestors, but it's mainly really important that they know that these workshops should be First Nations led and they should take away the importance of cultural intellectual properties of our knowledges here in Australia.
Le respect du protocole est essentiel. Si nous pouvons partager librement ces connaissances, il est important de ne pas les exploiter à des fins personnelles. En outre, il est impératif de toujours reconnaître les enseignements de nos mentors des Premières Nations. Les ateliers sont souvent organisés par le biais des conseils locaux. Vous pouvez facilement en trouver, dirigés par des membres des communautés autochtones. Et vous pouvez aussi trouver des festivals de tissage ouverts à tous.
The importance of advertising that it is First Nations led is a main thing. And then having non-Indigenous or basketry people coming in and working together, united, and learn from each other. And then with the workshops, I post on my Instagram, and sometimes it's just word of mouth as well.
Les objets tissés sont désormais connus du grand public. Ils font l'objet d'expositions et de ventes dans les grandes et petites galeries d'art d'Australie. Ils sont commandés pour des espaces privés et publics et sont même présentés lors de défilés de mode. Pour Cassie Latham, il est important que ces galeries d'art présentent la diversité des cultures et des environnements des Premières Nations.
The mainstream with weaving is actually a visual insight into the past, which is now the present. And all of us weavers are continuing for our future generations. So when people go into galleries, people do need to realize too that our weaving is Australia-wide and everyone has a cultural significant story with the weaving or fibers of plants. It's not all the same.
Bruxelles est la capitale d'un pays qui va mal. C'est... Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire croire à travers ces foutus journaux? Ils disent qu'on était endormis. Ouais, tout le monde sait faire des efforts, mais personne prend comme moi le chromie.
Nappeux de Roméo Elvis. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est mardi, même fréquence, même heure. Bonne journée.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.